Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Cette nouvelle épopée des musiques noires avec un titre qui identifie immédiatement le musicien dont nous allons parler. Il s'agit de Thelonious par Thelonious Monk, lui-même immense pianiste dont on ne cesse de redécouvrir les œuvres tant son esprit agité fut fertile et insondable. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré nos invités du jour puisque leur passion commune pour le jazz les a conduits à collaborer ensemble sur un roman illustré paru chez Gallimard. Roland Brival et Bruno Lyon, soyez les bienvenus.
Bonjour, merci.
Bonjour.
Ce n'est pas une biographie que vous nous proposez à travers cette évocation de Thelonious Monk, mais une plongée dans les souvenirs et fantasmes de cet artiste singulier. Qui a eu cette idée et pourquoi avoir choisi cet angle narratif, Roland Brival?
Au départ, Monk s'est imposé à moi parce que je suis écrivain mais également musicien dans le monde du jazz, et que quiconque voyage dans le monde du jazz, tôt ou tard, finit par rencontrer Thelonious Monk parce qu'il est absolument incontournable. C'est l'un des pivots de la musique moderne, l'un des hommes qui a le plus bouleversé, frotté, dérangé les harmonies habituelles pour proposer quelque chose de différent. Donc c'est au hasard de ces pérégrinations musicales que je suis tombé sur lui. Mais une chose en particulier m'a frappé, c'est que vers la fin de sa vie, il s'arrête de jouer.
Exactement.
Et il ne touchera plus jamais un piano. Alors, comment est-ce qu'un tel événement peut se produire dans la vie d'un musicien pareil? C'est la question que je me suis posée. Du coup, j'ai cherché à voyager à travers ce silence, à comprendre d'où il était et ce que faisait Thelonious au milieu de tout ça. Voilà.
Comment avez-vous travaillé ensemble? Est-ce que le texte s'est adapté au dessin ou l'inverse, Bruno Lyons?
Le texte existait déjà quand on s'est rencontrés avec Roland, on ne pouvait pas se louper, c'était inéluctable. Il avait déjà écrit Thelonious et il me semble qu'il était en pleine concentration de ce texte. Il était en train de réduire le nombre de pages et me rencontrant sur un salon du livre, puisque j'avais illustré un album qui s'appelle Nina, qui parle de l'enfance de Nina Simone, il était tombé dessus et cette rencontre en fait a dû lui donner envie. Je pense de...
Ah oui, j'avais admiré le grain de Bruno qui travaille à la craie sur des papiers comme ça un peu tramés. Et ça donne une espèce de définition en noir et blanc qui colle tout à fait avec l'univers du jazz, où les formes ne sont pas nettes, où il y a de la fumée partout, on est un peu dans le brouillard des alcools et des drogues. Et au milieu de tout ça, il a aussi une capacité de faire émerger les personnages dans la lumière. Et ça, c'est vraiment passionnant de voir la manière d'ailleurs dont il travaille la lumière dans ses dessins, dans ses personnages. En tout cas, il y a eu tout de suite une émotion qui n'aurait pas pu exister, je pense, peut-être avec quelqu'un d'autre. C'était ces dessins-là, cette patte-là. Et puis je découvrais en plus un véritable amateur de musique, un type qui en connaît sur Monk plus que moi, je veux dire, parce que à la limite, J'ai évité peut-être moi, de mon côté, de me plonger dans l'écoute des disques pour ne pas tomber dans l'anecdote et justement garder la situation de fond bien en main. Quoi. Voilà.
Donc ça veut dire que vous ne vous connaissiez pas avant ?
Non.
Non, enfin moi je courais après un disque qui s'appelle Créole Gypsy, que j'ai pas eu la chance de trouver en vide-grenier malgré 10 années d'investissement personnel acharné. Mais il était question à un moment pendant la réhabilitation du bal Blomet, quelqu'un m'avait appelé pour rendre un hommage à ce lieu qui était en train de redevenir un lieu dédié à la musique. Et enfin voilà, la personne qui m'avait contacté à l'époque m'avait présenté des images d'archives. On voit des images de cet endroit d'ailleurs dans un film. Et je devais inviter quelqu'un pour faire une performance à deux. J'avais des connexions parce que j'ai des amis qui font des rééditions, donc je pensais à quelqu'un en particulier, mais cette personne, je lui dis, mais si tu me demandes avec qui j'ai vraiment envie de bosser pour faire cet hommage, bah, je te dirais comme ça. Et puis j'ai dit Roland Brival. Et c'était donc un jeudi, et le dimanche, je me retrouve à un salon du livre pour dédicacer Nina. Et l'organisatrice me demande si ça va. Moi, il suffit de me demander si ça va pour que j'en raconte des tonnes. Et donc, je finis par... Et tu te rends compte, Roland Brival. Et là, elle sourit, elle me dit, mais il est là.
Génial, génial.
Alors, je suis allé le voir et je lui dis, Roland, quelqu'un va t'appeler pour te dire qu'on va faire un truc ensemble.
Et là, moi, je suis assis derrière ma table. Il y a des gens qui passent. Bon, on a le bonheur de temps à autre de faire une signature. Et je vois arriver Bruno. Alors je lui dis instantanément, bon, vous voulez que je vous fasse une signature ou une dédicace ? Il me dit, non, pas du tout, je suis à la recherche d'un nouveau disque qui s'appelle Créole Gypsy. Je dis, quoi ? Et il m'explique qu'il est dessinateur, amateur de musique, que cet album culte, effectivement, je sais qu'il est recherché par un certain nombre d'amateurs et qu'il y en a très peu d'exemplaires, mais de là imaginer qu'on pouvait me faire voilà, une introduction pareille, j'étais quand même assez sidéré. Donc je lui demande ce qu'il fait, il me dit, voilà, j'ai sorti ce livre sur l'enfance de Nina Simone, ting, ça fait tilt, et je vais voir le livre, il m'emmène sur son stand. Et quand j'ouvre les pages et que je vois les dessins, je sens immédiatement qu'on est en connexion là, qu'il y a un regard, une image, une forme de traitement du trait, de tout ça, qui me touche, d'autant que je suis aussi plasticien, donc oui. J'ai vraiment le regard et j'ai vu le talent là. Et du coup, je ne sais pas, c'est venu spontanément, je lui ai dit, tu sais, j'ai un manuscrit sur Thelonious Monk, ça serait peut-être bien qu'on essaye de faire quelque chose. Et là, voilà, l'histoire est partie de cette manière.
Bruno Lyons, vous le disiez, vous aviez fait paraître en 2015 un petit livre illustré chez Gallimard Jeunesse, donc consacré à Nina Simone, intitulé logiquement Nina, autre personnalité fantasque de l'épopée des musiques noires. Les figures un peu farouches de l'histoire du jazz guident plus facilement votre imagination, votre coup de crayon ?
J'ai pas pensé à ça, mais forcément, quand les personnalités sont farouches, elles sont fortes. C'est une matière sur laquelle... On peut pas être sirupeux, il faut voilà, c'est forcément des gens qui m'inspirent beaucoup, mais je suis inspiré de toute façon par tellement de monde, j'écoute tellement de musique, mais je suis pas mécontent d'être tombé sur Nina et Thelonious. Je pouvais pas, en fait, ce qui m'arrive, j'ai pas osé en rêver même.
Qu'est-ce qui vous fascine dans la personnalité ou le personnage de Thelonious Monk?
J'avais entendu sa musique, mais je ne m'étais pas rendu compte de l'importance du personnage et de sa création, ni de son implication. C'est vrai que, en étant en immersion pendant toute une année, l'année de son centenaire, je l'ai écouté en long, en large, en travers, en boucle, et je me suis rendu compte à quel point son influence a été majeure. Je le savais pas. C'est quelqu'un qui a pris en un an une importance capitale dans la musique que j'écoute. Je m'en étais pas rendu compte avant.
Rappelons que vous êtes Roland Brival, donc un auteur, mais aussi un musicien, vous l'avez dit, un plasticien. Qui a écrit ce beau texte dont nous parlons aujourd'hui ? Est-ce que c'est le romancier ou l'amateur de jazz ?
Ah, c'est le romancier, forcément, parce que c'est pas du tout les mêmes logiciels hein, qu'on met en œuvre lorsqu'on rentre dans ces différentes techniques. Mais tout à coup, pendant qu'on parle, il m'apparaît que finalement, Thelonious... Il a bien sûr de nombreuses particularités, mais l'une d'entre elles, c'est qu'il est peut-être le plus africain des musiciens de jazz, à cause de son art de la dissonance. Thelonious n'est pas du tout un musicien qui aborde l'harmonie d'une manière classique. Quand on parle d'harmonie, ça veut dire qu'on parle de notes qui ont l'habitude de voyager ensemble et de faire couler des sons langoureux ou soft, enfin tout ce qu'on veut. Alors que lui... voilà un personnage étrange qui, sur le clavier du piano, décide de faire sonner des notes qui, d'habitude, ben, ne voyagent pas ensemble. Donc, elles se retrouvent avec des valises qui nous créent des émotions singulières. Lorsqu'il joue, non seulement il a cet appel vers la dissonance des sons, c'est-à-dire la quête de quelque chose qui soit un peu heurté, qui sorte des normes, mais il a aussi une façon énergétique, j'allais dire, d'entrer dans la musique, qui rappelle l'art de la transe, qui rappelle un fonctionnement qui est au-delà du simple fait d'écouter. À certains moments, la musique est trop forte en lui, il se lève et il se met à danser.
C'est vrai.
Et dans ces moments-là, il restitue vraiment l'origine fondamentale de l'émotion musicale, de là où elle vient et de la manière dont elle a voyagé dans son sang, c'est-à-dire qu'elle est finalement quelque part partie d'Afrique, pour arriver à New York et devenir cette musique emblématique qui renvoie maintenant la réponse de ce peuple piétiné, mais qui renvoie la réponse de ce peuple à travers le monde. C'est une façon, voilà, il a été l'une des têtes de proue de ce voyage-là, et même s'il ne l'a jamais dit, même ses costumes parfois évoquaient cette légende africaine, on se souvient de l'avoir vu avec des vestes un peu léopard, des chapeaux, enfin, voilà. Donc, Monk osait prendre la mesure du monde, hors même du format qui lui était donné. Et en ce sens-là, je pense qu'il est l'un de ceux qui sont en mesure de nous toucher d'une manière totalement universelle. J'ai entendu des solos de balafons, parfois. 3-4 balafons qui jouent ensemble. Et en écoutant ça, Monk est là. Il est là parce que dans la manière dont s'accordent ces notes, elles ne sont pas sur la gamme chromatique ordinaire. Elles sont dans une espèce de fusionnement qui fait déborder les limites et exploser les frontières. Et en ce sens-là, quand on en arrive là, dans cet endroit où la racine est plantée et vraiment se développe, on est au cœur du processus de la musique. Voilà.
On vous entendrait pendant des heures, Roland Brival, parler de Thelonious Monk. Monk restera à jamais un créateur mystérieux, comme nous le confirme son propre fils, le batteur T.S. Monk.
I didn't understand my father's importance until I was 19.
Je ne me suis pas rendu compte de l'importance de mon père avant d'avoir 18-19 ans. Je savais qu'il était différent des autres musiciens. Je dois dire honnêtement qu'à une certaine époque, je ne comprenais pas du tout ce que faisait mon père. J'étais un peu déconcerté, voire perdu. Pourquoi ne suivait-il pas les règles? Il ne suivait pas le chemin qui aurait pu le rendre populaire plus rapidement, comme ses collègues musiciens. Pour eux, tout se passait de façon plus souple. Mon père, lui, suivait sa trajectoire et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, je ne comprenais pas ce qu'il faisait. C'était tout simplement l'essence même de ce qu'est la musique. Une fois que j'ai compris cela, ça m'a bouleversé et je tremble encore. J'ai réalisé soudainement qui était réellement mon père et son importance dans l'histoire du jazz. Thelonious a construit des bases sur lesquelles se reposaient Dizzy, Bird et Coltrane. C'est un apport très subtil qui ne sera jamais reconnu à sa juste valeur. Sa contribution à l'histoire du jazz est énorme. Thelonious a installé le canevas harmonique qui a rendu plus visible, plus sensationnel la mélodie et le rythme. Et puis, il m'a permis à moi de me rendre compte que j'étais un être humain normal puisque je n'étais pas le seul à ne pas comprendre ce qu'il faisait.
What it has done is let me know that I'm human because, you know, like I'm not the only one that didn't get it.
Roland Brival, Bruno Lyons, qu'espérez-vous apporter au lecteur qui découvrira ce texte et ses dessins, Bruno Lyons?
L'envie d'écouter Brilliant Corners en lisant, l'envie d'écouter Monk's Music en lisant. C'est au lecteur qu'il va falloir demander. Moi, j'ai...
Alors, je vais essayer de préciser ma question. Est-ce que vous avez cherché à comprendre Thelonious Monk en concoctant cet ouvrage?
À m'en approcher en tout cas, à me laisser envahir par sa musique, par sa création, comme je le fais de toute façon tous les jours. La musique m'habite et je travaille beaucoup avec cette source d'inspiration et là j'étais exclusivement en rapport avec lui. Je ne m'étais pas rendu compte de l'importance du bonhomme avant et c'est vraiment en passant un an avec sa musique, en immersion, moi-même en... prenant du recul par rapport à certains dessins et en me mettant à danser à 3h du matin dans mon atelier tout seul. Oui, là, je me suis rendu compte je me suis rendu compte.
L'esprit de Thelonious Monk vous a habité.
Probablement. Et il est peut-être encore un peu là.
Je remarque qu'il n'y a aucune date dans votre récit, mais nous allons tout de même en citer quelques-unes, comme le 21 mai 1963 à Tokyo, où Monk donne un concert en quartet. Voici Bemsha Swing. Swing si particulier de Thelonious Monk, c'était un extrait de Monk in Tokyo, paru en 1963. Bruno Lyons, est-ce que vous êtes musicien ?
Ben non, j'ai choisi le dessin. Par contre, depuis quelques années, je joue du fusain lors de concerts dessinés. En fait, c'est le Marathon des mots, un festival littéraire à Toulouse, qui m'avait invité à faire un concert dessiné autour de Nina. On a monté un spectacle comme ça. À la première représentation, j'ai vu qu'un régisseur du théâtre des Mazades à Toulouse a eu l'ingénieuse idée d'avoir branché un micro au-dessus de ma feuille de papier. Lors de la première représentation, pas très heureux du résultat que donnait un fusain, j'ai changé d'outil, j'ai pris un fusain plus consistant, plus épais, plus sauvage et plus bruyant. Et je me suis entendu
dessiner.
Et là, surprise. Et depuis, c'est des aventures vraiment que j'adore vivre parce que je pense à la musique de mon dessin avant de penser au dessin. Et je sais plus ce qu'on est en train de créer, si c'est un morceau de musique ou un dessin musical. Enfin, c'est un peu fou. Mais j'ai eu une expérience de musique vécue, moi qui ai l'habitude de la consommer à outrance, la musique. Et je trouve que les musiciens ont beaucoup, beaucoup de chance.
Mais moi, je connais un certain nombre d'écrivains dont je pense qu'ils sont des écrivains, intrinsèquement, fondamentalement, et qui n'écriront jamais un livre, qui n'ont même pas ce souci. Je connais des musiciens qui ne jouent absolument d'aucun instrument de musique, et qui pour moi sont des musiciens plus authentiques que certains que je vois avec leur instrument à la bouche ou au bout des doigts, en train de débiter de la musique en tranches, sans se rendre compte de ce que c'est que l'intériorité, le monde à l'intérieur duquel cette musique nous oblige à nous installer. Beaucoup de musiciens, par exemple, de jazz, ne supportent pas le silence, ne savent pas jouer du silence, ne savent pas prendre le risque de casser l'allégeance rythmique qui nous oblige à taper du pied comme des machines pour simplement s'installer dans des endroits où la mélodie se déploie dans toute sa pureté, dans toute son élévation. Ce qui veut dire que, Bruno, pour moi, tu es un des musiciens les plus extraordinaires que j'ai rencontrés. Et que je le dis d'autant plus que même moi, vis-à-vis de ma propre musique, je n'ai pas l'attitude des musiciens ordinaires. Beaucoup de musiciens se disent disent qu'ils sont musiciens parce qu'ils savent lire les portées et parce qu'ils ont effectivement fait des études d'harmonie ou de tout ce qu'on voudra. Mais il existe toute une catégorie de musiciens dont je fais partie qui, bien sûr, ont étudié les harmonies, peut-être de manière moins formelle et précise que les autres. Mais de toute façon, ce ne sont pas les crochets et les portées, les notes qu'on voit là sur la partition qui font la musique. La musique, c'est ce qu'on entend d'abord. C'est d'abord ce qu'on perçoit, sans le moindre support de rien du tout. Il m'arrive d'être couché là dans mon lit et d'entendre des arrangements qui seraient injouables, mais qui sont d'une telle beauté que j'en reste sidéré le temps où cette chose m'a traversé l'esprit. C'est ça être musicien, c'est être ouverte à la porte de cette évidence et de cette rencontre. Le reste, après, ça devient superfétatoire. C'est pour ça que Monk ne voulait pas que les musiciens, lors des répétitions, apprennent les morceaux grâce à la partition. Il voulait d'abord qu'ils les apprennent de mémoire, de tête. Et ensuite, on va à la partition. Parce que si on accorde trop d'importance à la partition, on perd l'essence même de ce que cela veut dire. La partition, ça n'est qu'une page de notes, de petits signes qui sont là pour créer la convention de la mélodie ou du son. Mais la musique, ça n'est pas ça. Et ça n'est pas l'art de le lire qui fait la musique du jazz. C'est l'art de ressentir du plus profondément ce qu'on est capable de faire en improvisant, en prenant le risque de ne pas avoir de portée de notes devant soi. Voilà.
Je vous propose d'écouter Roland Brival et Bruno Lyons, le témoignage du chanteur et pianiste Ben Sidran, grand admirateur de Monk et fasciné par l'inventivité de ce personnage hors norme.
J'écoutais hier soir un disque de Thelonious Monk de 1957 intitulé Thelonious Alone. Sur la réédition qui vient de sortir, il y a 20 minutes supplémentaires où l'on entend Monk au piano travaillant sur Around Midnight. Je ne sais pas si vous connaissez ce disque. Sur l'original, on avait la version achevée de Around Midnight. Aujourd'hui, on peut entendre ces fameuses 20 minutes qui le conduiront à la version définitive. On assiste donc à la création de ce titre en studio, on entend Monk essayer, s'interrompre, revenir en arrière. On a presque envie de lui dire « ça y est, tu y es presque », mais évidemment, il ne le sait pas encore. Cette facilité d'être aussi honnête en studio est époustouflante.
Roland Brival, Bruno Lyons, vous qui vous êtes plongé dans l'univers sonore de Monk pendant des mois, que conseillez-vous à nos auditeurs? Comment entre-t-on dans la musique de Monk? Quelle est la porte d'entrée? Bruno Lyons.
J'avoue que le passage dont Ben Sidran parlait juste à l'instant, je l'ai écouté en boucle. On a vraiment l'impression d'être à côté de lui. Et ça, ça n'a pas de prix. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce genre de document qu'il me fallait. Peut-être, je recommande de partir dans une immersion comme ça, avec Monk en coulisses. Mais le premier que je ferai écouter, je l'ai fait écouter lors des portes ouvertes de mon atelier il y a quelques jours à un enfant. C'était Round Midnight. Il y a Panonica et Crépuscule with Nelly. Pour moi, c'est vraiment les trois morceaux qui me touchent le plus. Ceux que j'ai envie de chantonner à mes enfants pour les rassurer. Ceux que j'ai envie de faire découvrir au monde entier. Ouais, c'est ça.
En lisant votre récit, en admirant vos dessins, messieurs, on aimerait connaître les disques qui correspondent à tous ces souvenirs de Monk que l'on découvre dans ce conte. À quels albums doit-on se référer pour apprécier pleinement votre histoire de Thelonious Monk, Roland Brival?
Pour aller vite, je dirais tout simplement que les audacieux pourraient s'attaquer au problème en le prenant dans l'ordre inverse, c'est-à-dire pas depuis les origines vers la fin, mais plutôt de la fin vers les origines. Et à ce moment-là, on attaque Brilliant Corners. Brilliant Corners, c'est un morceau tout à fait emblématique. L'un des premiers morceaux du jazz où on va trouver des mélanges d'harmonie, de tempo, absolument sidérant, on part sur un tempo assez rapide, tout se casse, on part sur un tempo lent, on repart dans un tempo médium. Donc des situations qui ne s'étaient jamais posées pour la plupart des musiciens qui avaient été convoqués en studio le jour où il s'est agi d'enregistrer cet album. Et cet album, c'est le premier album dans lequel on dit à Monk qu'on lui donne une chance enfin d'exposer sa musique. Jusque-là, il a eu l'occasion de faire des trucs du genre Monk joue Duke Ellington, etc. On essayait de lisser le Monk pour le rendre un peu commercial et perceptible par le grand public. Sauf qu'un jour, on lui dit, bon, voilà, ça y est, maintenant, tu vas faire ton album à toi, vas-y, prends ta chance. Et alors, on imagine que n'importe quel musicien placé dans une situation comme celle-là va établir une stratégie de séduction pour que les gens puissent finalement se pencher vers lui. Lui, pas du tout. En fait, Monk, comme dit ce pianiste, il n'y a pas de stratégie là. Il est sincère. Il est au studio comme il est chez lui. Et il arrive, premier temps, les deux premiers morceaux de l'album sont enregistrés. Bon, ça frotte un peu, les gars sont... Mais ça va. Et tout à coup, on arrive à Brilliant Corners. Et là, on a une distribution, mais d'enfer. Batteur, saxophone, une équipe de grands musiciens du moment qui se penchent sur ce titre. Ils vont essayer, je crois, pendant 27 fois. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est de cet ordre-là. Ils vont essayer de le jouer. Et pendant 27 fois, ils n'y arrivent pas. 27 fois, ils y reviennent. À la fin de cet enregistrement, Oscar Pettiford, qui était le contrebassiste, a déclaré qu'il ne jouerait plus jamais avec Monk de sa vie. Simplement, lui, c'était un peu une espèce de petit tricheur, là, Pettiford, parce que lorsqu'il s'est vu tellement dépassé par le morceau qu'il n'y comprenait rien, il jouait, on voyait, mais lorsque, dans le studio, en réécoutant la bande, on montait le volume du potentiomètre du micro de la contrebasse, on n'entendait rien. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il faisait semblant de jouer. Donc, il était là, on voyait les mains se déplacer, mais aucune note ne sonnait. Et donc, Monk se retrouve avec ses gars. Et en fait, le morceau a été enregistré grâce à un miracle. C'est dû à la production et à l'ingénieur du son génial qui était là à ce moment-là. Ils ont réussi, au bout des 27 prises, avec des ciseaux, avec des coupures, des trucs, à produire un miracle et avoir une version entière et complète du titre. Voilà.
Messieurs, est-ce que vous pensez continuer à collaborer ensemble dans l'avenir, peut-être autour d'une autre personnalité de l'épopée des musiques noires, Bruno Lyons ?
Rien n'est impossible.
La porte reste ouverte parce que on a abordé un niveau de complicité qui est rarement atteint dans les collaborations artistiques. Donc il y a une chose qui est là. Maintenant, il suffit d'attendre l'appel, quoi. Parce que, en définitive, ni l'un ni l'autre n'avons décidé, a priori, que nous allions faire ce livre. Il s'est imposé de lui-même. Donc on attend en ce moment qu'un projet s'impose de lui-même de la même manière, qu'il puisse nous faire repartir sur des terrains où on n'a pas l'impression de se répéter. Voilà.
Quoi qu'il en soit, je recommande chaudement votre Felonious, paru chez Gallimard. Merci à vous deux d'être passé nous voir.
Merci beaucoup.
La semaine prochaine, nous retrouverons justement un autre géant du XXe siècle, John Coltrane, à qui le journaliste Frank Medioni consacre une biographie très complète, préfacée par l'illustre Archie Shepp. L'émission du jour était réalisée, documentée et illustrée par Nathalie Laporte avec le concours précieux de Igor Strauss. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Mais avant de laisser place au journal, écoutons en guise de conclusion la révérence du pianiste cubain Omar Sosa à l'égard de son héros, Thelonious Monk. À bientôt.
Yo recuerdo que un amigo mío en Alemania.
Je me souviens qu'un ami à moi en Allemagne m'avait fait découvrir le film Straight No Chaser. J'ai pleuré comme un enfant. Ce bonhomme à l'écran avait l'air surnaturel, issu d'une autre planète. Réussir à transmettre une telle énergie, une telle émotion à travers un écran de télévision est un exploit hors du commun. Dès lors, je me suis dit, il faut que tu étudies l'œuvre de cet homme. Progressivement, à l'écoute de ses compositions, j'ai senti la liberté, la lumière, la vérité. Je pense que face à de tels géants, notre seul devoir, c'est d'écouter et d'apprendre. Et ensuite, essayer de trouver sa voie à partir de cet exemple.
Comment camina tu camino, y valga la redundancia.